Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin.
Parole de femme.
En Côte d'Ivoire, où les élections municipales et régionales sont prévues le 2 septembre 2023, la commission électorale exige un quota de 30% de femmes sur les listes électorales, sinon les partis politiques verront leur liste rejetée. Un reportage de Delphine Bouise à Abidjan.
Le RHDP, parti au pouvoir, se dit satisfait de cette décision de la commission électorale indépendante. Doumbouya Ibrahim, secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral.
Le RHDP se fera fort de respecter le quota de 30%. D'ores et déjà, tous les candidats ont été sensibilisés à l'effet de mettre sur leur liste un minimum de 30% de femmes. Non seulement un minimum de 30% de femmes, mais de respecter rigoureusement leur positionnement comme indiqué par la loi.
Le PDCI RDA aussi promet de se conformer à la loi. Maître Émile Suibigoré, secrétaire exécutif chargé des questions juridiques.
Le PDCI RDA veillera à ce que tous ces candidats têtes de liste déposent des listes de candidatures comportant au moins 30%, sinon plus, de candidatures féminines. Parce que nous savons que c'est l'une des conditions de validité même de la liste de candidatures que nous allons déposer.
Le PPACI se dit prêt à mettre en œuvre la loi du 14 octobre 2019, même si son leader, l'ancien président Laurent Gbagbo, est lui-même rayé des listes électorales. Cheidé Jean-Gervais, député et vice-président du PPACI.
Pour nous, au PPACI, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous allons nous atteler à confectionner des listes où il y a au moins 30% de femmes. Eh bien, le quota des 30% est un minimum. On peut aller au-delà si on le peut.
Dans un panel organisé par le National Democratic Institute, le 27 juin, des femmes ont réagi. Sita Koulibaly, présidente de l'Union des femmes du PDCI.
Dans les familles, vous avez des contraintes. En réalité, il nous faut une volonté politique affichée pour accompagner ces lois que nous avons acceptées.
Danielle Bonny-Claveri, présidente de l'URD, Union républicaine pour la démocratie, une des rares femmes à la tête d'un parti politique Saint-Rouge.
Les femmes n'ont pas d'argent, les moyens financiers leur manquent. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas l'éventualité d'une réflexion? Faut-il financer les campagnes électorales des femmes?
Et les jeunes filles ont eu leur mot à dire. Joanna India, secrétaire générale adjointe de l'Union des jeunes du PDCI.
Au Burkina Faso et au Rwanda, il existe un quota pour les femmes respectées parce que dans la loi, il est prévu une sanction claire qui est le retrait de 50% de leur financement public par l'État. Donc je pense qu'il faudrait aller vers ce sens-là aussi en Côte d'Ivoire.
Entre respect du quota de 30% de femmes sur les listes électorales et l'alternance du genre, la lutte contre les pesanteurs des traditions et la question du financement des femmes, les lignes ont commencé à bouger, mais jusque-là, très lentement. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Élevée par une mère vendeuse de café, Marceline Goudza, entrepreneuse congolaise, a fondé l'association Redonner l'espoir aux femmes qui mène des actions sur l'île d'Idjoui dans le sud Kivu en faveur de l'autonomisation des femmes rurales. Cette coopérative s'est spécialisée dans la production de café et regroupe plus de 3500 caféicultrices. Un reportage de Zamen Neti Zaidi qui s'est rendu dans cette localité.
Oh,
C'est dans une ambiance conviviale que Marceline Bouza et quelques femmes de son organisation procèdent au séchage du café, étape importante avant sa commercialisation. Marceline a fondé l'ONG Rebuild Women's Hope il y a plusieurs années dans le seul but d'autonomiser les femmes par la culture du café.
Au fait, on travaille le café dans le but d'augmenter le pouvoir économique de la femme. Et donc, comme derrière moi, vous voyez, les femmes sont en train de travailler le café avec passion, avec amour. Et ils produisent du très bon café qui permet aussi à améliorer leur vie économique.
Le travail que ces femmes accomplissent a porté ses fruits. Aujourd'hui, elles peuvent facilement subvenir aux besoins de leur famille, ce qui n'était pas facile auparavant en raison du manque d'emplois rémunérateurs, explique Sifa Safari, une caféicultrice.
Mon travail ici est de trier et de sécher le café pour voir comment je peux m'occuper des enfants. Nous remercions cette initiative. Elle nous aide car avant nos enfants mouraient de faim, mais aujourd'hui avec cette usine, nos dépenses sont couvertes en tant que parents.
Les efforts de ces femmes, estimés à plus de 3500 pour valoriser le café Arabica produit ici à Idjui, dans la province du Sud Kivu, certes, malheureusement, à un certain nombre de défis liés à la discrimination sexiste et aux tracasseries. Mais Marceline rêve encore plus grand.
Parfois, les hommes ne parviennent pas à considérer le travail de la femme. On sous-estime toujours les femmes. Notre projet à venir, c'est d'ouvrir un grand centre d'apprentissage de métier où on pourra encadrer plusieurs femmes, mais aussi exporter beaucoup plus de café.
Cette coopérative, en grande partie féminine, existe depuis plus de 5 ans. Pour la récente saison, elle a produit 7 containers de café. Zanem Netizaïdi pour VOA Afrique, Idjui.
Après avoir fui les violences des groupes djihadistes au Burkina Faso, les personnes déplacées qui ont parcouru de nombreux kilomètres pour se rendre à Bobo-Dioulasso font face à la saison des pluies, apportant des vents violents et de très fortes précipitations aux conséquences dévastatrices. Alidou Ouédraogo est allé à la rencontre de plusieurs familles, notamment une dame seule qui revend des sachets plastiques pour survivre.
À plus de 80 ans, Alizata Ouédraogo est déplacée. Elle a fui les exactions terroristes à Kaya, au centre-nord, à plus de 500 km de Bobo-Dioulasso. Installée à Sabarebougou, un quartier précaire de la ville, elle a vu sa maison s'écrouler avec les premières pluies. Pour se reloger, elle ramasse des sachets plastiques qu'elle vend aux pépiniéristes à 1 franc l'unité. Alizata Ouédraogo refuse toute mendicité pour se reloger.
Quand il y a un événement quelque part, je vais ramasser les sachets en vue de les revendre. Ça m'empêche de mendier. Ce n'est pas facile, mais avec ce que je gagne, j'arrive à gérer le reste de mes jours.
Elle n'est pas seule dans le cas. Dans plusieurs quartiers, beaucoup de sites d'accueil pour déplacer sont en ruine du fait de la saison pluvieuse qui commence. Et Alimata Nana n'a où aller.
Bon nombre de mes frères ont été tués, au moins 6 membres de ma famille. Nous avons fui devant la mort. Avec ces problèmes de logement maintenant, ce sera difficile. Il faut débourser 25 000 ou 30 000 maintenant pour avoir une maison. Certains d'entre nous ont été déguerpis de leur habitat pour défaut de paiement.
C'est le même cas pour Amidou Ganamé, venu de Nefroulaï à une centaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Il cherche une maison inhabitée.
Nous avons été chassés de nos terres. Ici, nous avons tous les problèmes possibles. Pas de nourriture, pas d'eau et surtout pas où dormir. C'est très grave.
À 33 ans, Aïda Paris gère une ONG. Elle emploie 300 femmes déplacées sans abri qui fabriquent des produits locaux. Grâce à cette activité, elle les reloge progressivement et chaque femme gagne 1 000 francs par jour.
On a pris des dotations qu'on paye les gens dans une location à part à part. Il y a des autres fois on a trouvé des non dit, mais là-bas c'est moins cher. Ils pouvaient faire 5 000 francs. Mais dans les autres fois, on paye ça à 30 000 et 25 000.
Pour loger en saison pluvieuse reste le combat quotidien de milliers de personnes déplacées à travers le Burkina. Ali de Ouedraogo, Bobo Dioulasso pour VOA Afrique.
La situation n'est pas plus reluisante au Mali pour les veuves et orphelins de militaires tombés au combat. Malgré quelques efforts du gouvernement, ces femmes et ces enfants luttent au quotidien pour leur subsistance et s'organisent pour faire valoir leurs droits, explique Lamissa Sangaré, qui a rencontré des veuves de guerre à Kati.
Ce soir-là, dans la maison familiale de Djenaba Keïta, responsable de l'association pour la défense des veuves militaires et paramilitaires à Kati, on y trouve quelques femmes. En temps normal, elles sont près de 80 femmes à se réunir pour discuter de leurs problèmes et donner leurs cotisations. Oumou Fall est l'adjointe à la responsable de l'association.
Chaque les 5, nous faisons une cotisation entre nous les 5 de chaque mois. Ça fait 2 500 francs par personne. Cela nous aide énormément.
Ces rencontres mensuelles sont des moments de jouissance pour bon nombre d'entre elles. Djenaba Keïta, la première responsable de l'association, nous explique leur quotidien.
Celles-ci sont obligées d'épuiser l'eau pour en vendre dans les sentiers de construction. Certaines ramassent du gravier et d'autres des vieux bidons pour vendre de l'eau. C'est ce qui leur permet d'entretenir les enfants. Vivre, c'est vivre dans un nouveau monde. Mais pour autant, ça ne voudrait pas dire qu'il faut vendre sa dignité.
Elle se voit dans l'obligation de mener ses petites activités selon Adam Mariko.
Nous sommes obligés de faire ces petits travaux car la pension ne suffit pas pour tout faire. Moi qui vous parle, je ne dépense même pas 30 000 francs CFA en pension. Imaginez la prise en charge des frais de scolarité, des ordonnances et autres dépenses de la famille. Avec 30 000 francs CFA, ce n'est vraiment pas possible.
L'avènement de la transition au Mali a été une aubaine pour ces femmes. Djenaba Keïta.
J'avoue que nous avons assez souffert dans le temps, mais la transition nous a vraiment soulagés. Nous remercions Dieu car de nos jours, des convois militaires sortent rarement sur des mines. Nous, veuves, nous étions carrément exclus de la société. On nous traitait de tout, sorcières, prostituées et j'en passe. Notre situation s'est considérablement améliorée ces temps-ci. La seule chose, présentement, c'est le chômage de nos enfants.
La prise en charge des orphelins de guerre s'est faite à travers un programme spécial dénommé Pupilles de la Nation. Ce programme est géré par une ONG du nom de l'ONU Pima. Les veuves s'en félicitent.
Je suis vraiment soulagée depuis que j'ai commencé à travailler avec l'ONU Pima. C'est une ONG qui soutient les pupilles de la nation. Chaque enfant perçoit de cette ONG une somme forfaitaire de 200 000 francs CFA le trimestre pour les petits baisers.
Adam Mariko a jugé cet effort insuffisant.
Le programme sur les pupilles de la nation ne concerne que les orphelins de guerre, alors que certains militaires meurent de maladies à la maison. C'est injuste que leurs ayants droit ne bénéficient pas du soutien.
En dépit de ces efforts de la première responsable de l'association et des quelques contributions de l'État du Mali, ces veuves se disent délaissées et même victimes de tentatives d'instrumentalisation par des individus mal intentionnés. Lamissa Sangaré, Kati, VOA Afrique.
Féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Quelques jeunes entrepreneurs du secteur agricole ont participé au Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire à Yaoundé début juillet. Le CIALI a vu également la présence de femmes et entreprises spécialisées dans la transformation des produits agricoles. certains États africains tentent, avec leurs partenaires, d'inciter les jeunes à se lancer dans les métiers de la terre. Emmanuel Juntap a tendu son micro à des acteurs du secteur agroalimentaire à Yaoundé.
Côte à côte, sur le site d'exposition, deux entreprises lauréates cette année d'un concours sur l'innovation jeune. La première est spécialisée sur la chocolaterie artisanale. Elle a été cofondée par deux jeunes Camerounais. Larissa Simo, responsable commerciale de l'entreprise Noïa Yaoundé.
C'est une entreprise qui assure la production de chocolat. Et Louise fait dans les chocolats à tartiner. Nous disposons de 8 différentes saveurs et à croquer de plusieurs grammages.
Quant à la deuxième entreprise nominée, elle emploie 8 personnes. Basée à Douala, elle transforme la patate douce. Manuela Konga, agent commercial.
Madina Food, c'est une entreprise qui produit la marque Bobo. C'est une marque camerounaise qui commercialise et produit des madeleines, des cookies et des sablés à la farine de patate douce. Avec les fonds de Pierre Castel, on souhaite augmenter notre capital afin de s'étendre en zone CEMAC.
Le salon sert aussi de vitrine aux jeunes à la recherche des financements. À l'instar des étudiants en fin de formation de l'Institut universitaire de technologie de Ngaoundéré. Thomas Minka, étudiant.
Si nous avons un financement extérieur, ce sera une opportunité très rapide pour mettre sur pied une entreprise. Donc nous sommes venus exposer des produits alimentaires, à l'instar de la bière, des chocolats. Nous avons des fromages, des liqueurs et des rhums.
Les transformateurs des produits dérivés de cacao et café occupent également une bonne place sous l'encadrement du Conseil interprofessionnel café-cacao, CICC. Dorité Baudol, chargée d'études au CICC.
À travers nos partenaires ou des fois nos propres experts, ils bénéficient de certaines formations sur le marketing, sur le respect des normes internationales, sur la qualité, la sécurité, l'hygiène alimentaire.
Les exposants peuvent s'imprégner du modèle turc de technique d'irrigation en vue d'améliorer leur production. Bibiane Atama, promotrice du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Yaoundé.
On travaille depuis 13 ans pour mettre sur une même plateforme tous les acteurs du secteur pour qu'ils puissent échanger entre eux, trouver des solutions pour s'améliorer. Et on amène aussi de la technologie. Il y a les Turcs qui ont apporté l'irrigation à cause des changements climatiques et pour améliorer même la production agricole.
Les exposants ont aussi l'occasion de se former sur de nouvelles technologies en matière de packaging, d'utilisation des engrais et des machines agricoles. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
L'Association des volontaires pour le service international coordonne des actions de sensibilisation sur les droits des enfants. AFSI a notamment organisé une journée d'information dans le village de Naka, près de Korogo, dans le nord-est du pays. L'objectif était de sensibiliser la population sur le mariage forcé, les maltraitances et autres types d'abus subis par les enfants. Sur ce sujet, un reportage de Delphine Bowis.
Non-respect des droits des enfants, pratique du mariage forcé, des enfants victimes de maltraitance et bien d'autres abus. Qu'en pense le citoyen lambda?
Je ne suis pas d'accord pour ça parce que arranger un mariage là, arriver là-bas, ça peut poser des problèmes, tout ça.
Je pense que ne pas prendre quelqu'un, venir proposer ou bien forcer quelqu'un à marier une personne sans son consentement.
Pour ça, bon, je ne serais pas d'avis.
C'est toujours risqué.
Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à cela. Ce sera la pire des choses qu'on puisse faire à quelqu'un.
En cas de violation ou d'atteinte ou de maltraitance, quels sont les recours qui s'offrent à elle?
Je dirais plutôt que c'est vrai que le combat n'est pas encore gagné, mais nous sommes sur la bonne voie.
Et c'est pour continuer le travail mené par le gouvernement ivoirien que l'Association des volontaires pour le service international a pris le relais sur le terrain auprès des communautés villageoises de Nakaa, non loin de Korogo. Franck Fieni, coordonnateur régional de l'ONG, explique.
Si tu mets ton enfant à l'école, et puis l'enfant entend les réussir à l'école, et puis on vient, on l'enlève à l'école, on dit non, va te marier avec un vieux. Est-ce que c'est bon? Est-ce que si tu prends ton enfant, il va dans une autre école, tu donnes à quelqu'un d'autre, et puis on lui donne pas à manger pendant 3 ou 4 jours, est-ce que c'est bon? Si les mamans font ça, elles apprennent que quelqu'un fait ça aussi, elles doivent parler, elles doivent dénoncer, elles doivent dire que c'est pas bon.
Et les femmes disent avoir compris le message. Yo Wanja est leur porte-parole.
Tout ce que nous on a compris ici et puis voir aussi, nous allons dire aux parents de ne pas faire mariage forcé avec les enfants. Il ne faut pas donner la fille qui n'a pas l'âge du garçon. Si l'enfant n'est pas bien traité à la maison, l'enfant ne pourra pas bien travailler à l'école.
Caroline Yao est conseillère sociale au complexe socio-éducatif de Korogo.
Quand on parle des victimes de traite, elles sont en nombre considérable. Et surtout, ce sont celles qui sont porteuses de vie, ce sont celles qui ont les enfants. Et la plupart du temps, quand leurs enfants sont touchés, on se dit qu'elles sont également touchées par ce phénomène.
Protéger les enfants et les femmes sera le fruit d'un long et laborieux processus pour faire tomber les barrières, les préjugés et les traditions qui, parfois, on la peau dure. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Entre parenthèses.
Le gouvernement équato-guinéen et le Programme des Nations Unies pour le Développement ont formé un partenariat pour lutter contre la pollution plastique. De nombreuses activités sont menées dans le pays. La jeunesse est généralement invitée à participer à divers ateliers sur la gestion des déchets et la protection de l'environnement. Un reportage de Samuel Obiang Mana à Malabo.
Le ramassage des résidus plastiques dans les deux principales villes du pays jusqu'au concours baptisé Zéro Plastique dans mon quartier, la mobilisation s'est faite contre la pollution de l'environnement qui reste une réalité préoccupante en Guinée équatoriale. José Franco Soakin est un des experts au ministère des Forêts et de l'Environnement de Guinée équatoriale.
Nous avons aujourd'hui 400 millions de tonnes de plastique dans le monde, ce qui nous préoccupe plus. La majorité de la population n'a pas de connaissance sur la problématique que présente le plastique dans notre société. On s'est rendu compte que 43,7% de notre population n'a aucune idée en ce qui concerne l'utilisation, la réduction et le recyclage des plastiques.
Miner Rappela Kiamang, la vingtaine, étudiante en informatique, fait le même constat.
Beaucoup d'ordures, beaucoup de plastique éparpillé partout. Cela est dû à l'ignorance, car beaucoup ne savent pas le danger que représente le plastique. Beaucoup pensent qu'après avoir consommé le contenu, on jette le plastique. Et pire, on le jette au sol où il y a des poulets, des enfants qui mangent le plastique, et les rivières sont polluées. Les gens ne savent pas qu'on peut utiliser le plastique 20 fois ici en Guinée et
La loi sur la pollution plastique est encore inexistante. Le pays importe des millions d'objets en plastique et en fabrique aussi sur place. Le gouvernement soutenu par l'ONU a lancé une campagne d'action mais aussi de sensibilisation afin de conscientiser la population sur la protection de l'environnement. Pour pérenniser cette sensibilisation, le PNUD a impliqué la jeunesse dans cette initiative. Betty Wabouanoua est la représentante résidente des Nations Unies à Malabo.
La jeunesse joue un rôle très important dans la gestion des résidus et pour la protection de l'environnement en général. De ces faits, si nous voulons avoir un changement d'attitude positif, on ne peut pas la laisser en marge d'aucune action, car la jeunesse constitue le moteur du développement de l'Afrique et c'est le futur.
Samuel Obiambana, Marabo, pour VOA Afrique.
Merci beaucoup d'avoir écouté Le Monde au féminin de VOA Afrique. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.